Moi, je voudrais présenter les transformations du secteur oléicole cisjordanien au cours des années 2000, dans un contexte à la fois d'internationalisation croissante du marché palestinien et de dispositifs d'occupation et de séparation mis en place par les Israéliens. Je mettrai en perspective les dimensions productives, mais également culturelles et politiques de l'olivier dans un cadre d'une analyse socio-économique. Alors, c'est une version assez raccourcie d'un travail que j'ai commencé à mener sur le sujet d'un point de vue assez micro. Et donc, c'est surtout des pistes de réflexion que je vais vous présenter qui peuvent éventuellement manquer de fondements théoriques, mais justement, ce sera l'occasion d'avoir des retours et éventuellement un élargissement sur les notions de militantisme ou de tourisme qu'on a commencé à évoquer ce matin. Pour contextualiser, le nombre d'internationaux en Palestine connaît un regain certes fragile, mais vigoureux. Alors, il a certes chuté de 850 000 à 8 000 entre 2000 et 2002, suite au déclenchement de la seconde intifada. Depuis progressivement redressé pour atteindre un pic de 1,3 million de visiteurs enregistrés en 2009. La durée et le motif de leur présence dans les territoires est très variable. Je présenterai les trois motifs principaux. Touristique d'abord, puisque le tourisme religieux et culturel reste évidemment le déterminant majeur de la présence des étrangers en Palestine, pour une durée de plusieurs jours à plusieurs semaines. Et l'autorité palestinienne mène une politique active de promotion et de diversification en la matière. Il y a aussi les raisons professionnelles, notamment du fait des opportunités d'emploi et de carrière dans le domaine diplomatique et humanitaire, toutes les ONG de développement, qui impliquent une expatriation d'une ou plusieurs années, notamment à Jérusalem ou à Ramallah. Puis enfin, les raisons militantes. Les territoires occupés ont toujours fait converger une forme d'expression de sympathie, de mobilisation et de militantisme, même s'il n'existe pas vraiment de statistiques décrivant le profil des militants internationaux et les contours de leur séjour. Peut-être que Marc pourra nous apporter quelques précisions là-dessus. Alors, expatriés et militants peuvent en partie être assimilés aux touristes, et ce sera le cas dans ma présentation, puisque tous s'adonnent durant leur séjour aux visites et aux achats de souvenirs locaux. La présence de ces étrangers à fort pouvoir d'achat génère en effet une forme de demande touristique particulière, issue d'une volonté de manifester son soutien à la cause palestinienne, de vivre des expériences dépaysantes ou encore de ramener ses choix chez soi des souvenirs typiques de Palestine. Je n'aborderai pas le champ des frissons qu'on a évoqué ce matin. Mais voilà, donc certains lieux qui portent la trace du conflit, je pense notamment aux murs de séparation, aux camps de réfugiés ou aux principales villes affectées par l'occupation, sont devenus des lieux de visite pour les touristes désireux de voir en vrai ce qu'ils avaient connu jusqu'ici par la couverture des livres ou des médias. Ces derniers expriment une forme de demande vis-à-vis d'une authenticité palestinienne dont chacun en Cisjordanie peut se revendiquer comme dépositaire. La notion de palestinité, dont la validité et l'expression tend à être contestée par les Israéliens en Cisjordanie, est ici vivement réaffirmée, voire labellisée. On met en avant la palestinité d'un lieu, d'un produit ou d'une tradition pour lui conférer un intérêt et une singularité accrue. La demande touristique est alors satisfaite par une forme d'offre, de produits, de services et de discours proposés par les acteurs palestiniens. Et c'est justement cette combinaison d'une offre et d'une demande plus ou moins implicite et plus ou moins formalisée qui m'a conduit à les regrouper sous le terme de marché. Alors je vais insister là-dessus, il ne s'agit en aucun cas de porter un jugement de valeur sur ces pratiques, mais seulement d'apporter un regard sociologique sur la capacité des Palestiniens à saisir ces nouvelles opportunités qui s'offrent à eux dans un contexte de contraintes. Donc encore une fois, je ne traite pas des rapports à la conviction, des motivations initiales de ces militants et de leur présence dans les territoires palestiniens. Et j'aborde pas non plus les militants israéliens, comme on l'a évoqué ce matin, mais seulement internationaux. Pour illustrer ces dynamiques d'ajustement, j'ai choisi le secteur de l'olivier. D'une part, du fait de son importance socio-économique, l'olivier est un secteur moteur de croissance en Cisjordanie qui représente jusqu'à 17% du PIB agricole et on considère que jusqu'à 100 000 familles palestiniennes sont concernées par cette activité, même si c'est une activité notamment informelle. C'est un secteur d'amortissement aussi, comme l'illustre la ruralisation de la société palestinienne, notamment suite à la crise de la seconde intifada ou de la crise budgétaire de l'autorité palestinienne en 2006 et 2007. Il faut savoir aussi que l'huile d'olive peut servir de monnaie d'échange en temps de crise, donc ceci explique cela. C'est aussi un secteur qui présente de nombreux enjeux pratiques, culturels et politiques qu'on va être amené éventuellement à évoquer ici. Je l'ai choisi d'autre part, ce secteur de l'olivier, pour son traitement qui m'a semblé insuffisant dans la presse, les rapports et les travaux académiques. Les impacts des dispositifs de contrôle et de séparation en Cisjordanie sont évidents, dramatiques et largement médiatisés. On parle souvent de l'arrachage, des confiscations des terres, des obstacles à la mobilité des fermiers. Et l'olivier est ainsi très souvent présenté comme un emblème de l'injustice et du déracinement que subit la société palestinienne sous l'occupation. Pourtant, la capacité de résilience, si on peut l'appeler comme ça, des acteurs oléicoles est à mon sens trop souvent sous-estimée, occultant les nombreuses dynamiques d'adaptation et de renouvellement visant à maintenir une continuité des activités socio-économiques en dépit des contraintes politiques. Justement, donc ma communication vise donc à dépasser l'actualité événementielle du secteur de l'olivier en Palestine pour insister sur ces réajustements qu'engendrent à la fois les contraintes et les réappropriations de la situation par les acteurs locaux. Ces transformations sont multiples et j'évoquerai que celles qui sont issues de l'internationalisation du marché que j'ai évoqué au début. Cette étude s'inscrit dans la lignée des travaux de l'équipe numéro 1 du MOFIP sur les mobilités et les échanges à l'ombre des dispositifs de séparation. Elle se propose néanmoins d'en élargir la grille d'analyse, d'une part pour y intégrer l'importance des internationaux dans les dynamiques socio-économiques en Cisjordanie, sans les réduire à la seule dimension institutionnelle. Ils sont souvent perçus comme membres d'ONG, de consulats, de bailleurs, mais peut-être pas assez en tant qu'acteurs privés au sein des interactions israélo-palestiniennes. Et puis d'autre part, pour souligner la diversité des pratiques d'adaptation, qui ne sont pas uniquement marginales en termes d'acteurs et de localisation. On a beaucoup parlé ici et les années précédentes de contrebande, de criminalité, de contournement des checkpoints, toutes ces pratiques qui se déroulent un peu aux confins des limites territoriales. Mais je présenterai ici des pratiques qui ont lieu au cœur même de l'espace économique et géographique cisjordanien. J'évoquerai des pratiques qui se déroulent à Hébron, à Bethléem, à Ramallah ou à Nablus. Je vais donc structurer ma présentation en trois points. Évaluer dans quelle mesure les producteurs palestiniens ont diversifié leur offre de produits oléicoles pour s'ajuster à la demande internationale et diversifier leurs débouchés. Ensuite, présenter comment certains acteurs oléicoles proposent une nouvelle offre de services originale aux touristes en faisant leur espace de travail un espace de mobilisation et d'opportunité. Et enfin, analyser l'offre de discours qui permet au marketing oléicole de renforcer la valeur symbolique et économique de ces produits, tout en s'adaptant à la segmentation des attentes des consommateurs internationaux. Je vais commencer tout d'abord brièvement par l'offre de produits. La diversification des usages de l'huile d'olive répond à la nécessité pour les producteurs palestiniens d'adapter leur offre de produits locaux aux attentes spécifiques des consommateurs étrangers. Alors en quelques mots, c'est un phénomène commun aux différentes industries palestiniennes confrontées aux flux touristiques. Les touristes achètent massivement des kéfirs à bas prix sans savoir qu'ils sont produits à Hébron. Seule une usine, qu'ils sont produits en Chine, et seule une usine d'Hébron parvient à maintenir une production partielle grâce aux visites de tourisme alternatif et surtout sa reconversion dans les produits dérivés. J'entends par là ce qu'on voit derrière moi, les kéfirs multicolores, les casquettes, les pins, et tous ces produits s'inspirant du damier noir et blanc qui sont plus en adéquation avec les préférences de consommation étrangère. De même, on trouve couramment des coquetiers et des plats à tagine dans les usines de fabrication de céramique à Hébron, deux objets ni palestiniens ni même orientaux, mais qui plaisent beaucoup aux touristes étrangers qui sont pourtant venus acheter des souvenirs de Palestine. Donc justement, l'adaptation à la demande internationale apparaît comme plus importante que la promotion de l'offre locale. Les agents économiques palestiniens doivent cerner les desiderata, des attentes des touristes étrangers, des consommateurs, auxquels leur commerce se retrouve assujetti. Et c'est un constat sur lequel une partie de la filière oléicole a dû et a su s'appuyer en proposant des produits spécialement dédiés à la niche touristique. Alors je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, un nombre croissant d'entreprises ou d'ONG palestiniennes propose des savons produits à base d'huile d'olive palestinienne, insistant sur sa nature extra vierge. Cela apporte peu de valeur dermatologique ou olfactive aux produits, mais ça plaît beaucoup aux pèlerins qui consentent alors à payer un prix plus élevé. Malgré un impact qualitatif relativement faible, les différentiels de prix de vente sont eux assez significatifs, destinant ces produits à une frange de consommateurs essentiellement étrangers. C'est un mécanisme qui a très bien été expliqué par Véronique Bontemps dans sa thèse de doctorat que je vais citer. Le public visé est un public occidental, dont il s'agit d'exploiter l'engouement actuel pour les produits naturels ou bio. L'idée est de produire un savon dont la forme, l'aspect et l'emballage plaisent au consommateur occidental tout en lui donnant le sentiment d'acheter un petit peu de Palestine. Le marché s'en trouve alors segmenté entre d'une part les touristes qui, en pensant acheter des souvenirs typiquement locaux, consomment en réalité des produits qui leur sont exclusivement réservés, et d'autre part les Palestiniens qui consomment pour la plupart des savons chimiques ou étrangers ou produits à base d'huile d'olive lampante importée d'Italie, qui sont beaucoup moins coûteux et plus adaptés au pouvoir d'achat en Cisjordanie. Alors cette diversification présente des contraintes et des opportunités. Si l'intérêt de diversifier sa clientèle en Palestine paraît évident face aux difficultés économiques du marché local, miser sur des lignes de produits entièrement destinées aux touristes étrangers n'est pas sans danger, puisqu'elle fait apparaître une dépendance nouvelle face à une clientèle qui est certes aisée, mais volatile, car très dépendante évidemment du climat politique en Palestine. Pour l'heure néanmoins, ces produits sont vendus sur Internet, au siège des associations ou à l'occasion des nombreuses foires artisanales et marchés que j'ai vu proliférer en Palestine à destination du nombre croissant d'expatriés et de touristes étrangers. Je pense notamment à la fête de la bière, à la manifestation contre Bilin ou Sharjah, les concerts municipaux de Ramallah, les marchés de Noël, des consulats, des paroisses, des centres culturels, etc. Un deuxième exemple, c'est les lampes de la paix. Ces lampes à huile destinées à éclairer 100 000 églises à travers le monde, comme c'est expliqué sur le site internet de l'initiative. Elles résultent d'un innovant montage combinant dimensions spirituelles et commerciales, destinées à satisfaire la volonté des croyants du monde entier d'agir et de prier pour la Terre Sainte. Elles sont présentées comme étant un message de paix et de solidarité exprimé par leurs acheteurs. Cette initiative de solidarité est pour le moins formalisée. Il y a des prix de gros, des modèles réduits, des revendeurs officiels en Occident, des paiements possibles par virements internationaux, des expéditions géolocalisées, etc. Alors ces colombes sont représentées elles sont en céramique, elles sont livrées avec une prière pour la paix, et surtout ce qui nous intéresse, elles sont livrées avec un litre d'huile d'olive de Terre Sainte pour faire fonctionner la bougie. Ce produit, qui se veut à la fois innovant et traditionnel, ou présenté comme tel, est un véritable succès. Il a déjà permis de fournir une vingtaine d'emplois aux habitants de Taipei à l'origine du projet, et il permet en outre d'écouler de larges quantités d'huile de basse qualité qui ne pourraient guère être vendues localement, du moins exportées, et ça permet de faciliter la gestion des stocks. Cette réussite s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, du fait de son initiateur, le père Raed, qu'on voit sur la droite, un prêtre très charismatique, polyglotte, qui dispose de nombreux réseaux locaux et internationaux, et il agit comme un véritable entrepreneur pour sa paroisse. D'autre part, du fait de la régularité des visites de pèlerinage et de délégation dans ce dernier village entièrement chrétien de Terre Sainte, Taipei, ce qui lui garantit une large médiatisation et une diffusion de cette initiative pour les lampes de la paix. Le deuxième point que je voudrais aborder concerne l'offre de services. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que l'olivier est un facteur de mobilisation. Historiquement, d'une part, auprès des Palestiniens, comme ça se traduit notamment à travers les représentations artistiques qui en font de plus en plus un symbole d'une identité palestinienne menacée et qu'il conviendrait de défendre. Ça s'exprime également par les rassemblements politiques, culturels et militants qui lui sont liés. Je pense notamment au Jour de l'Arbre, à la Journée de la Terre ou à la fête des récoltes des olives qui sont créées depuis peu à Jenin, à Bethléem ou à Ramallah. Plus récemment, c'est un facteur de mobilisation auprès des acteurs internationaux. Alors, il y a des missions de plantation d'oliviers qui sont régulièrement organisées par des organisations locales à destination des militants étrangers. Il s'agit d'une part de compenser les arrachages menés par les Israéliens et de protéger les parcelles de terre contre leur confiscation éventuelle par l'État d'Israël ou les colons en justifiant leur exploitation agricole effective. Alors, juste pour ouvrir une parenthèse, selon le ministère de l'Agriculture palestinienne, il y aurait eu 443 000 oliviers arrachés en Cisjordanie entre 2001 et 2005. Et donc, il y a plusieurs missions de plantation massives qui ont été organisées, au nom très évocateur, comme on peut le voir derrière, sur The Trees for Life Operation, or The Olive Tree Campaign Keep the Hope Alive. Donc, chaque année, on va avoir des centaines de volontaires qui s'inscrivent aux différents circuits existants, et qui représentent une quinzaine de nationalités, majoritairement occidentales, qui viennent pour des séjours de plantation de nouveaux oliviers, qui sont eux-mêmes financés par des dons internationaux, mais aussi pour suivre des visites culturelles ou s'immerger aux fins du quotidien des familles paysannes. Il faut savoir qu'il faut compter environ 700 $ pour une semaine de circuit de ce genre. Le champ oléicole est régulièrement investi par un nombre croissant de touristes alternatifs, d'agences de tourisme alternatif qui proposent aux touristes de partager le quotidien, disons, pittoresque des fermiers palestiniens. Plus étonnant, certains acteurs oléicoles se sont également décidés à saisir les opportunités nouvelles qui pouvaient se dégager de cette situation Et c'est le cas de la coopérative oléicole de Quillay en 2010. Elle a proposé une offre sur mesure à l'approche des récoltes en septembre, et là encore qui est très formalisée, puisqu'il y avait des formulaires d'inscription qui proposaient des tarifs de groupe, des prix dégressifs et des suppléments pour l'hébergement en option pour participer à la cueillette et suivre des visites explicatives. Je rappelle que c'est bien une coopérative agricole et pas une agence de tourisme. Ce qui est intéressant, c'est de constater que les membres de cette coopérative ont ainsi transformé leur propre espace de travail, les oliveraies, en un support de projection d'une authenticité culturelle locale à destination des touristes et des expatriés. Les opportunités attendues les incitent à sortir de leur rôle de fermier pour s'improviser organisateurs de circuits. Et les oliviers deviennent à la fois une vitrine touristique et un instrument d'une revendication identitaire ou politique. À l'image des autres offres développées par les acteurs palestiniens, ces services vendus combinent étroitement le champ de la solidarité et aussi celui des intérêts. En l'occurrence, je vois trois avantages principaux. Économiques tout d'abord, puisque ces séjours génèrent une source de revenus directs pour les organisateurs à travers les frais d'inscription. Et puis ça permet aussi de soutenir l'économie locale à travers les restaurants, les hôtels, les magasins de souvenirs fréquentés. Des avantages pratiques aussi, puisque la mobilisation des volontaires permet d'accélérer la récolte des olives, qui est l'étape la plus coûteuse dans le cycle de production de l'huile d'olive en Palestine. Et en outre, ça minimise les risques d'attaque des colons, dissuadés de venir provoquer les fermiers dans leurs champs en raison de la présence d'étrangers ou de militaires israéliens dépêchés sur place pour éviter tout incident. Puis des objectifs aussi politiques, il ne faut pas oublier, puisque cette immersion d'étrangers dans le quotidien palestinien permet de les sensibiliser à la situation politique et oléicole locale et les encourageant à devenir des relais d'information et de pression à l'échelle internationale. Alors, contrairement à l'initiative des Lampes de la Paix, par contre, pardon, l'initiative de Kyrée était un échec puisqu'aucune inscription n'a été enregistrée en 2010. Ça nous apprend que si la niche représentée par la clientèle internationale peut générer des opportunités, elle n'est pas pour autant exempte de contraintes et donc de prise de risque. En l'occurrence, pour la coopérative de Kyrée, un appartement avait été loué et meublé en prévision des nuitées des touristes dans le village et qu'il est resté complètement inoccupé pendant toute la saison des récoltes. Ça peut sembler être un détail, mais ça révèle en réalité, et puis ça vient surtout nous rappeler, que l'élaboration d'une offre à destination d'une clientèle internationale ne s'improvise pas facilement, mais requiert évidemment de développer des réseaux de contacts, d'informations et de publicité, ce qui permet aussi de nuancer la facilité apparente peut-être de ces mécanismes d'adaptation. En fait, ces initiatives s'accompagnent de leur lot de réussites et de déboires, propres à la logique de marché à laquelle elles s'apparentent. Troisième point que je vais aborder brièvement, c'est la question de l'offre de discours oléicole à destination des internationaux, qu'ils soient présents sur place dans les territoires palestiniens ou à l'étranger. L'étude du marketing oléicole reflète comment un discours peut modifier la perception du consommateur sur un produit alimentaire et ainsi le positionner sur des niches spécifiques. En l'occurrence, dans la promotion de l'huile d'olive palestinienne, on ne peut pas trop insister ni sur la qualité, qui est bonne mais encore perfectible, ni sur la compétitivité prix, qui elle est assez nulle au regard des concurrents internationaux. Il va donc s'agir de conférer à l'acte d'achat une portée symbolique particulière. Pour d'une part transformer une valeur ajoutée symbolique en une véritable valeur ajoutée économique, les bouteilles d'huile d'olive qu'on va évoquer ici vont pouvoir être vendues entre 2 et 5 fois plus chères qu'une huile traditionnelle. Cela permet de diminuer la part du surcoût lié à l'occupation dans le prix total du produit, et ça permet aussi de se positionner sur des niches d'exportation à caractère peut-être plus éthique, au cœur d'un marché oléicole mondial hautement concurrentiel. D'autre part, ça permet de réorienter les ventes à l'export pour élargir les débouchés potentiels face notamment aux contraintes d'exportation d'huile vers les marchés historiques que sont notamment Israël et Gaza, en s'adaptant à la segmentation du marché et aux attentes des consommateurs étrangers. Donc, je vais vous donner encore une fois quelques exemples. L'incarnation de l'olivier comme j'ai sauté quelques slides. L'incarnation de l'olivier comme symbole de paix est un argument commercial et efficace, manié par de nombreux embouteilleurs d'huile. La société Canaan Fairtrade, basée à Jenin par exemple, commercialise une série de Peace Oil avec le slogan Enjoy the Taste of Peace. Et puis la Palestinian Fairtrade Association, qui lui est associée, propose également d'importer la paix, c'est le nom de son site internet, en achetant cette huile. Ces huiles sont issues pour certaines d'un mélange entre huile de producteur palestinien et huile de producteur israélien, ce qui va constituer un argument commercial supplémentaire, puisqu'on va présenter l'acte d'achat comme un acte de paix qui favoriserait la coopération entre les deux peuples. Ce qui est expliqué en dessous, « Your purchase of peace oil supports a just and lasting peace in Israel and Palestine ». Dans les sociétés occidentales où le consommateur se tourne progressivement vers un marché, vers une démarche solidaire ou éthique, cet argument ne laisse pas insensible. Le deuxième argument que je vais évoquer brièvement, la référence à la Terre Sainte, puisque l'engouement international pour les produits de Terre Sainte constitue une véritable niche. Elle permet d'une part de toucher un très large public de croyants et de pèlerins, évidemment, mais aussi plus largement des consommateurs sur les marchés dits arabes ou ethniques, dont l'imaginaire est sensible à cette évocation d'arbres sacrés, d'huile bénie, sans qu'on sache évidemment par qui ils sont bénis. Ça se traduit sous différentes formes. Alors on ne voit pas très bien ici, mais les étiquettes apposées sur les bouteilles arborent des scènes bibliques ou folkloriques, rappelant l'époque du Christ. Donc c'est souvent un vieil homme sur son âne ou des choses comme ça. Et puis les bouteilles prennent parfois la forme de jarre pour rappeler cette dimension biblique. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que la labellisation « Terre Sainte » reste parfois volontairement imprécise et le lieu de production n'est pas clairement explicité. Alors ça va permettre d'une part de ne pas froisser la sensibilité des consommateurs et d'en viser ainsi évidemment le plus grand nombre. Cela permet notamment de ne pas se couper d'une clientèle juive ou israélienne qui reste un débouché important pour l'huile d'olive palestinienne. D'autre part, ça permet de faciliter un jeu sur les chaînes de contrôle, puisque le fait d'occulter l'origine palestinienne de l'huile permet aux produits d'être épargnés par les restrictions commerciales, notamment à l'entrée sur les marchés de Jérusalem ou d'Israël. Le troisième point que je vais développer rapidement, c'est le soutien à la cause palestinienne. Si les deux premiers arguments commerciaux, les symboles de la paix et celui de la Terre Sainte, sont employés à destination d'un public très large, la dernière catégorie de discours révèle au contraire un positionnement militant assez net à la fois des producteurs et des consommateurs potentiels. Le discours marketing développé par les acteurs oléicoles palestiniens et leurs partenaires commerciaux, c'est important, ça marche par pair, insiste sur l'importance de l'acte d'achat d'huile d'olive comme un soutien à la cause palestinienne. On rappelle brièvement déjà que cultiver, c'est résister. La culture de l'olivier apparaît en Palestine comme un mode de résistance passive à l'occupation, désigné communément sous l'expression de faire soumoud. Entretenir sa terre est perçu comme un acte politique et patriotique, comme l'illustre explicitement le slogan du Palestinian Farmers Union, une main cultive et l'autre résiste. On explique ensuite que consommer, cette fois, c'est résister. L'acte d'achat est présenté comme un appui à l'indépendance politique ou économique de la Palestine, puis on explique aussi que c'est une aide directe aux populations locales. Pour compléter, certains producteurs n'hésitent pas à orner leur étiquette de drapeau palestinien, de kéfier ou de label Made in Palestine, qui font bon effet. La démarche, là encore, est à la fois militante et commerciale. Il s'agit d'une part de créer un sentiment d'empathie à l'égard des producteurs. C'est ce qu'explique Menley dans une analyse de Anne Menley, une anthropologue américaine, qui a fait aussi une analyse de l'huile d'olive palestinienne. Et ça permet de sensibiliser de nouveaux consommateurs aux enjeux de la résistance palestinienne. Les bouteilles sont souvent accompagnées d'une brochure soulignant les conditions politiques dans lesquelles l'huile est produite. On rappelle l'occupation, les confiscations, les arrachages. Notamment, c'est le cas par exemple de l'association FPS qui accompagne toujours les bouteilles d'un petit tract qui explique un petit peu les conditions politiques. Et la bouteille d'huile d'olive devient ainsi un support à une communication politique. D'autre part, ça permet le fait de souligner les contraintes à la production doit permettre de justifier un prix sensiblement plus élevé que la moyenne des huiles concurrentes auxquelles le consommateur pourrait être confronté. Il y a donc une grande diversité de raisons qui motivent ces mécanismes d'adaptation. Alors, si l'on reprend rapidement les trois points que j'ai abordés, on voit assez clairement qu'au niveau local, ce phénomène d'adaptation révèle une double originalité. D'une part, il recompose les relations entre les Palestiniens et les internationaux en combinant étroitement à la fois une nouvelle forme de dépendance, j'entends par là la vulnérabilité vis-à-vis d'une niche économique touristique exigeante et volatile, et aussi le besoin de s'adapter aux attentes internationales. Ça combine aussi également une nouvelle forme d'opportunité, puisque la présence croissante des internationaux permet aux Palestiniens de saisir la spécificité de la situation et peut-être de la retourner à leur avantage. Ils repositionnent le conflit, non plus seulement comme une contrainte, mais aussi comme un moyen, si possible, de mobiliser de nouvelles ressources humaine et pourquoi pas financière. D'autre part, ce phénomène d'adaptation fait apparaître une étonnante redistribution des rôles, sinon complète, du moins à la marge. Certains acteurs sortent de leur fonction initiale pour saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à eux. C'était le cas, comme on l'a vu, du curé qui s'improvise entrepreneur ou des fermiers qui se font guide touristique. Alors, ce réajustement économique n'est ni prévu ni planifié. Il se construit au contraire par tâtonnement, s'improvise au gré des opportunités, des rencontres, des contraintes. Il diffère selon les acteurs dans le temps et dans l'espace et se réajuste en permanence face aux évolutions d'un environnement arbitraire et mouvant. Derrière cette apparente diversité de formes se cache en réalité une singularité de fond caractérisée par une même tentative de réappropriation progressive de son espace de vie et de travail. Cette recherche souligne aussi le rôle que peuvent avoir les internationaux dans l'évolution de certains processus socio-économiques au sein de l'espace israélo-palestinien et au-delà de la sphère institutionnelle. L'intégration croissante des internationaux dans les circuits économiques cisjordaniens permet aux Palestiniens une diversification relative vis-à-vis du seul marché israélien, même s'il est important de rappeler que le poids de ces quelques opportunités touristiques que nous avons évoquées reste évidemment bien faible au regard de la dépendance générale qui les relie au marché israélien. Et au-delà de la sphère institutionnelle, les internationaux en Palestine constituent un groupe d'acteurs minoritaires, mais qui me semble à mon sens incontournable, pour percevoir toute la diversité des mécanismes socio-économiques qui régissent la scène israélo-palestinienne. Et alors, in fine, ces pratiques économiques prolongent la dépendance à Israël. La réussite de certaines de ces initiatives, pardon, ne saurait faire oublier qu'elles sont extrêmement tributaires d'un accord implicite des autorités israéliennes, puisque la plupart de ces initiatives n'existent que par la présence des internationaux, une présence qu'Israël peut interdire à tout moment par la simple fermeture des points d'accès au territoire, comme l'illustre le bouclage complet de la bande de Gaza depuis 2006. Ainsi, il doit être souligné que ce type de pratique économique se développe vis-à-vis des dispositifs d'occupation plutôt qu'en dehors. Les acteurs concernés entérinent malgré eux le système de contrôle sans vraiment le remettre en cause. Et je m'inscris ici dans la continuité des travaux de Foucault ou de Aboulouhod, dans le sens où je n'assimile pas ces pratiques à des formes de résistance par l'économie. Je pense qu'il faut plutôt y voir davantage un processus de réajustement face à l'occupation, et ces réajustements ne défient pas l'expression de la domination israélienne, mais au contraire, en révèlent la profondeur et l'amplitude. Je vous remercie.